je tiens vraiment à mettre en évidence l'excellent dialogue social. Mais la collaboration forte avec les partenaires sociaux, les autorités, qui nous a permis de faire face vraiment à cette situation inédite. Et ça nous a permis de préserver l'outil de production, ce qui était essentiel pour assurer un futur.
Dans Let's Talk, la FEB vous fixe rendez-vous avec une figure clé du monde entrepreneurial en Belgique. Qui se cache derrière la femme ou l'homme chef d'entreprise ? Quel est le moteur qui l'a ou le pousse à faire tourner son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Est-ce la passion des chiffres, les gènes ou bien l'ambition ? Let's Talk vous propose de découvrir une personnalité du monde du business, devant et derrière les coulisses. À écouter chaque dernier jeudi du mois.
L'invité de ce nouvel épisode du podcast Let's Talk de la FEB est Philippe Bastien, d'AGC Glass Europe, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation de verres plats. Philippe Bastien, vous êtes entré à l'âge de 24 ans chez Glaverbel, devenu AGC Glass Europe, un fleuron de l'industrie verrière en Belgique. Du simple pare-brise à la fenêtre connectée, le verre est aujourd'hui mis à toutes les sauces de sécurité, de confort, de production d'énergie, d'esthétique et même de communication et d'information. Au sein d'AGC, vous êtes plus spécifiquement en charge de la branche bâtiment et industrie. Vous en détaillerez pour nous les principaux défis. De même que vous nous en direz plus sur l'engagement d'AGC Glass Europe à atteindre l'objectif de neutralité carbone de l'UE d'ici à 2050. Vous dites du verre qu'il continue de vous fasciner, même après toutes ces années. Et nous, on aimerait bien savoir pourquoi. Vous êtes entré en 1992, à l'âge de 24 ans, soit immédiatement après vos études et votre service militaire chez Glaverbel, devenu AGC Glass Europe, fleuron de l'industrie verrière en Belgique. Aviez-vous alors imaginé réaliser un aussi long parcours ?
Eh bien, très sincèrement, non. Je n'avais pas vraiment d'idée précise et préconçue sur ma carrière. Par contre, j'avais une envie forte, dès le début, celle de travailler pour l'industrie avec un centre décisionnel en Belgique. J'aime en fait un peu la relation avec le produit, la vie dans les usines. J'ai un certain attrait pour ce qu'on peut appeler l'économie réelle. Et j'ai postulé dans différentes entreprises et ben, je me suis retrouvé chez Glaverbel. Et puis alors là, j'ai découvert une entreprise passionnante, avec une culture très ouverte, où jeune, débutant dans l'entreprise, on a la possibilité de s'exprimer et d'influencer la direction. Et puis j'ai aussi découvert un produit extraordinaire, basé sur une fonction essentielle, la transparence.
Philippe Bastien, au sein d'AGC, vous êtes plus spécifiquement en charge de la branche bâtiment et industrie. Rendre les bâtiments plus performants, c'est un des principaux leviers d'action du Green Deal, encore épinglé maintenant à la mi-juillet dans le paquet climat de la Commission. Rappelons que les bâtiments sont responsables d'environ 40% de la consommation d'énergie de l'Union européenne et de 36% des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, seul 1% du parc immobilier est rénové chaque année. Quel est ou quel sera le rôle de l'industrie du verre dans cette rénovation du parc immobilier ?
Les études montrent que pour atteindre l'objectif de neutralité climat en 2050, hein, ce qui est l'ambition européenne, il faut que près de 98% du parc immobilier soit rénové en 2050. Ce qui signifie...
Oui, c'est un chantier énorme.
C'est un chantier énorme. Ce qui signifie que ce n'est pas 1% de rénovation qu'il faut atteindre, mais qu'il faut atteindre 3% de rénovation annuelle. Et le verre a un rôle essentiel à jouer parce que le verre est responsable jusqu'à, on estime, plus ou moins 30% des déperditions énergétiques dans un bâtiment. Donc vous imaginez l'ampleur du défi qu'on a à faire face à ce niveau-là. Et juste pour préciser, mais aujourd'hui, la performance moyenne d'une fenêtre, hein, on mesure l'efficacité d'une fenêtre, la déperdition énergétique d'une fenêtre, par ce qu'on appelle le coefficient U. Je ne veux pas rentrer dans des détails scientifiques, mais le niveau moyen d'efficacité d'une fenêtre aujourd'hui est de 2,8. Ça veut dire 2,8 watts par mètre carré Kelvin. Donc, un mètre carré de fenêtre et différence de température intérieure-extérieure pour un degré de différence de température intérieure-extérieure. Ce qui correspond... un double vitrage standard d'il y a près de 30 ans. Alors, c'est pas une surprise en soi. Hein. Quand on pense à la rénovation dans le secteur de la fenêtre, peut-être qu'on remplace ces vitrages une fois au cours d'une vie, hein, une fois au cours d'une génération. Donc, c'est pas une surprise de voir que le parc moyen des vitrages installés a une efficacité moyenne de celle il y a d'une trentaine d'années. Alors que les vitrages aujourd'hui, hein, 2,8 l'efficacité moyenne, les vitrages standards aujourd'hui ont une efficacité de 1. Et les vitrages les plus performants vont jusqu'à 0,5. C'est le cas, par exemple, de notre double vitrage sous vide, qu'on appelle Fineo, mais qui est peut-être la plus belle innovation de ce siècle dans l'industrie du verre. Donc, si on passe de 2,8 à un coefficient entre 0,5 et 1, vous imaginez qu'on peut réduire nos déperditions par un ratio de 3 à 5, si on va sur les vitrages les plus performants. Ce qui correspond au niveau européen, à sauver 100 millions de tonnes de CO2 émis chaque année, 3 millions de tonnes rien que pour la Belgique.
Mais l'ampleur du chantier ne vous effraie-t-elle pas ?
Ah non, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est le défi qui nous anime aujourd'hui. C'est ce qui donne un vrai sens à notre métier de verrier. C'est ce qui nous motive tous les jours. Réussir ce challenge de rénovation, hein, d'où nous sommes un acteur, est également très très important pour une économie locale. Rien de plus régional, local, que son chez-soi, que sa maison. Et donc, le développement de cette économie est aussi créatrice d'emplois au niveau local, ce qui nous semble très important. Et bien sûr, on ne pourra pas réaliser ce défi tout seul, hein. C'est impossible. Mais c'est pour ça que je parle souvent de l'écosystème verrier, de l'importance que nous avons en tant que leader dans le secteur du verre de mobiliser l'ensemble des acteurs face à ces changements sociétaux.
Il est beaucoup question aujourd'hui d'économie circulaire et d'approche cradle to cradle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a donc d'une part les nouveaux produits offrant de meilleures performances environnementales durant leur cycle de vie, mais il y a aussi la réutilisation, le recyclage, une approche environnementale vraiment intégrée, c'est-à-dire cohérente d'un bout à l'autre, est un énorme défi. Quels en sont pour vous les principaux ingrédients ?
Alors oui, nous avons différents axes dans notre politique environnementale. Le premier, que je citerai, est un axe de réduction, et on en a déjà un petit peu parlé, hein, c'est la réduction de nos émissions, mais aussi de permettre la réduction des émissions de nos secteurs clients grâce à l'efficacité énergétique des produits ou solutions que nous offrons. Mais il y a un deuxième axe qui est très important, qui est l'axe de recyclage. Aujourd'hui, on est déjà très bien organisé pour récupérer ce qu'on appelle le groisil ou le calcin, donc les déchets de verre, les débris de verre. On est très bien organisé pour les récupérer dans nos propres usines et chez nos clients directs, ce qui permet d'atteindre dans la composition du verre une vingtaine de pourcents et d'accroître l'efficacité énergétique. Les déchets, les débris de verre sont plus faciles à fondre que le sable pour produire du nouveau verre. Et donc, ce recyclage est très important. Et pourtant, ça reste un véritable challenge. Car on subit la concurrence d'autres secteurs, hein, le verre de bouteille par exemple, qui sont nettement moins exigeants en termes de qualité. En termes d'impuretés dans le verre. Si nous avons des impuretés dans le verre, cela génère un risque important de casse spontanée qu'on ne peut pas se permettre, vous le comprendrez, dans une façade ou dans le pare-brise d'une voiture. Et la logistique pour récupérer ce verre vers les clients finaux, hein, les clients de nos clients, les applications finales coûtent très cher. Donc il faut mettre en place des solutions économiques pour promouvoir une véritable économie circulaire, s'assurant que les vitrages des bâtiments ou des voitures reviennent vers l'industrie du verre plat. Et pour arriver à ça, on aura besoin d'un cadre réglementaire qui favorisera cette économie circulaire. Enfin, au-delà du recyclage, à plus long terme, on a aussi, alors c'est pas encore en place, mais on a aussi des idées qui vont plus loin et qui visent la réutilisation des matériaux, pas pour le recyclage. C'est-à-dire, on pourrait réutiliser le verre, améliorer ses performances pour l'utiliser pour d'autres applications sans passer par un procédé énergivore. On entend beaucoup parler de ça pour l'instant, hein, la destruction des bâtiments et la récupération des matériaux de la construction reste un véritable défi de l'économie circulaire. Ceci dit, vous y avez fait référence un petit peu au début en parlant de Cradle to Cradle. Nous sommes très fiers d'être le premier verrier certifié Cradle to Cradle. Et même si la concurrence nous suit, enfin, ça prouve que en fait, c'est une bonne idée et une bonne direction.
Vous avez été pionnier.
On était les pionniers en la matière, oui.
Philippe Bastien, le dernier rapport sur la durabilité d'AGC fait état de 6 grands objectifs à l'horizon 2030. Lequel ou lesquels de ces objectifs présenteront les plus grands défis pour votre secteur ?
Une question qui est un peu compliquée, parce que je n'aime pas donner un ordre de priorité dans ces défis environnementaux.
C'est un peu à ça que ça revient, effectivement.
et je n'ai pas trop envie de donner un ordre de priorité, parce que je pense que tous ces axes sont importants et je n'aime pas trop les classer. Ceci dit, pour essayer quand même de répondre un peu à la question, on présente parfois notre bilan, et là je vais cibler le bilan carbone, on présente parfois notre bilan carbone sous la forme d'une balance, où pour une tonne de CO2 émise, notre industrie contribue, hein, et AGC Glace Europe contribue à en sauver 11 tonnes grâce aux applications et à l'efficacité des solutions. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la rénovation des vieux bâtiments, mais il y a aussi la décarbonisation d'un réseau électrique, hein, avec les applications où le verre est important pour les panneaux solaires. On soutient aussi une mobilité facilitée, une nouvelle forme de mobilité par les applications et les vitrages qu'on met en œuvre dans les voitures. Et donc, toutes ces applications permettent de sauver ou d'aider ou de contribuer à économiser 11 tonnes de CO2 pour une tonne de CO2 émise. Donc évidemment, on a envie de continuer et on va continuer à promouvoir des solutions qui vont nous permettre de sauver plus. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu de more good, hein, plus de mieux, du meilleur en quelque sorte. Et c'est un des axes prioritaires. Ceci dit, il est aussi très important de continuer à couper drastiquement la tonne que nous émettons. Et c'est peut-être là que le défi le plus difficile se situe, pour essayer de répondre. Parce que pour arriver à cela, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels il faut travailler, que ce soit des nouveaux procédés industriels, que ce soit des nouvelles sources énergétiques, que ce soit l'électrification de nos fours, que ce soit des technologies de capture du carbone. Ce sont tous des défis qui sont très importants et très difficilement justifiables à la taille d'une entreprise. Et pour y arriver, il faut absolument développer des partenariats avec d'autres acteurs industriels, d'autres secteurs éventuellement où on partage les mêmes enjeux, mais aussi des partenariats privés-publics. Et de ce point de vue-là, je dois dire, et je vois le Green Deal et les plans de relance comme vraiment une belle opportunité.
Plus spécifiquement à présent, par rapport aux objectifs de développement durable, les fameux ODD, adopté par les Nations Unies en 2015. Quel est l'engagement d'AGC Glace Europe? Je ne sais pas s'il faut encore le rappeler. Donc, ces objectifs, au nombre de 17, sont un appel à l'action à l'égard de 190 pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Si vous deviez résumer en quelques mots la contribution d'un groupe comme AGC à ce vaste projet, que diriez-vous?
Tout d'abord, je veux dire que comme beaucoup d'entreprises, je pense aujourd'hui, nous sommes totalement engagés face à ces objectifs définis par les Nations Unies, que vous me l'avez rappelé au nombre de 17. Mais nous avons des actions qui contribuent à la plupart de ces défis. C'est vrai. Mais on en a identifié 10 sur lesquels nous avons un réel focus ou un impact plus direct, plus naturel en ce qui nous concerne et sur lesquels nous avons lancer des actions spécifiques. Vous les trouverez d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, sur notre site internet, tout ça est détaillé. Certaines sont évidentes et dérivent directement des spécificités de notre industrie. Je peux penser aux actions contre le changement climatique. J'en ai un peu parlé jusqu'à présent. Ça me semble, c'est peut-être le plus évident, mais aussi à la contribution à ce qu'on appelle les Sustainable Cities. Les villes du futur, le vert rentre dans les bâtiments qui sont dans les villes du futur et donc on a un impact assez direct sur cet axe-là. Je pense aussi à être simplement une industrie responsable, c'est un des objectifs et ça fait intégralement partie des nôtres. Il y en a d'autres, hein. On est aussi fortement engagé pour un travail décent pour tous, le respect de la diversité ou une éducation de qualité, par exemple. On fait ça à travers des projets que nous soutenons. Mais franchement, je ne sais pas si l'important est là. Je crois qu'il est important de dépasser le stade de déclaration d'intention. aller plus loin que ce que je vais, ce que j'appelle, même si c'est important, mais le CSR traditionnel qui a peut-être un côté externe. Il faut absolument que ça devienne des valeurs internes, des valeurs partagées par tous au sein de l'entreprise. Et pour ça, on a formulé chez AGC Glass Europe une charte qui confirme notre engagement dans la gestion de ces transitions environnementales et sociales pour que le développement durable soit réellement au cœur de nos plans stratégiques, au cœur de notre stratégie et intégrée par tous.
On le lit à plusieurs endroits sur votre site. AGC Glass Europe s'engage pleinement à atteindre l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne d'ici à 2050. C'est une volonté, un engagement que ne partagent pas forcément tous vos concurrents hors Union européenne. Comment comptez-vous tenir le cap sur cet engagement en termes de compétitivité, ou comment tenez-vous le cap sur cet engagement en termes de compétitivité si vous avez face à vous des concurrents qui sont moins regardants?
En effet, c'est un des risques majeurs. Pourtant, pour ma part, je considère qu'il n'y a pas de compromis possible. Et que l'industrie européenne doit construire sa différenciation en étant le leader d'une industrie durable. Souvent, je dois le dire, nous sommes en avance sur ce sujet. Une avance marché, hein, je crois que les marchés européens sont plus conscients de l'importance du changement climatique, ou de lutter contre le changement climatique plus précisément. Une avance technologie soutenue par une force d'innovation. Et là, je parle tout particulièrement pour le verre. Le centre de recherche le plus important d'AGC pour le verre se situe en Europe, en Belgique. Près de 2/3 de notre budget de recherche aujourd'hui est dédié à des projets durables. Et je pense que ça, c'est très important. Il faut continuer. C'est notre chance pour l'avenir. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Et la compétitivité reste essentiel. Aujourd'hui, le consommateur final n'est pas encore prêt à payer plus cher sa fenêtre parce qu'elle a une meilleure empreinte carbone. Oui, il faut donc que cette évolution soit encadrée correctement. Cela nécessite, à mon avis, au niveau européen, au niveau national ou au niveau régional, des politiques adaptées, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de commerce au sens très, d'un échange, que ce soit en matière énergétique. Il faut vraiment des politiques très adaptées pour permettre cette évolution et faciliter ce changement de mentalité qui est essentiel.
Toujours par rapport au paquet climatique de la mi-juillet, donc publié par la Commission, celle-ci propose la création d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes, justement pour obliger les entreprises de pays dont la législation environnementale est moins regardante que celle de l'Europe à payer un prix CO2 pour compenser le manque à gagner vis-à-vis de nos entreprises. Mais en parallèle, elle propose aussi de réduire les quotas de CO2 alloués gratuitement à l'industrie européenne. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée, ou une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Alors, on sait ce qu'on a, et on ne sait pas vraiment ce qu'on aura. Le système actuel, hein, ETS, avec des allocations gratuites dont nous bénéficions aujourd'hui, est sans doute la moins mauvaise solution.
Ce sont les échanges de quotas d'émissions?
Nous recevons des quotas gratuits, et donc nous avons en quelque sorte aujourd'hui un peu des droits d'émettre, et ce sont des allocations qui sont faites pour permettre à des industries comme la nôtre de continuer à fonctionner dans le contexte actuel. Et donc, c'est pas une mauvaise solution au jour d'aujourd'hui, et le système en lui-même nous permet de progresser parce qu'il y a une révision annuelle de ces quotas et qui est liée parallèlement à une augmentation du coût du carbone. Donc cela nous pousse vraiment à intégrer cette dimension dans notre stratégie, et on le fait. Et on a les développements qui visent à ces améliorations. Par exemple, juste pour citer un chiffre, mais nous avons réduit nos émissions de 31% depuis 1990 et de 20% au cours des 10 dernières années. Donc on est sur la ligne conductrice pour atteindre les objectifs que la Commission européenne a fixés, 55% en 2030 et neutralité climat en 2050. Ceci dit, je suis convaincu que ce système est destiné à disparaître. Il serait quelque part absurde de continuer à allouer ces quotas gratuits, en quelque sorte des droits d'émettre ou des droits de polluer, alors qu'on vise une économie neutre en carbone. Donc dans ce contexte, il faut veiller à la compétitivité face à des concurrents non européens. Et le CBAM vise à ça. Alors est-ce que ça va fonctionner ou pas? Mais je pense que c'est sans doute une solution qui permettra d'harmoniser le terrain de jeu, d'être dans un environnement de concurrence normal.
Normal.
Faire. Mais ce sera pas simple à mettre en place. Hein. Donc, d'abord, il faut avoir une acceptation par l'OMC. Hein. On entend déjà les premières plaintes disant que le CBAM ne respecte pas le libre-échange.
Et entre parenthèses, le CBAM, petite...
Carbon Border Adjustment Mechanism.
C'est
ce mécanisme d'ajustement aux frontières.
Aux frontières.
Et donc, pardon, mais donc c'est bien ce mécanisme-là, et qui, à mon avis, si on arrive à le gérer, à gérer la problématique, comme je viens de l'expliquer, par rapport à l'OMC, mais ce sera aussi compliqué, parce qu'il faut se rendre compte qu'il faut gérer une chaîne de valeur. Donc, comment définir le contenu carbone? Comment définir la taxe qui devrait être payée? C'est loin d'être simple. Par exemple, pour nous, il suffira pas simplement de mettre une taxe sur le vin importé, mais il faudra aussi que ce soit sur la fenêtre ou sur le pare-brise. Et donc, toutes ces problématiques définira, à mon sens, l'efficacité ou pas du mécanisme.
Philippe Bastien, vous avez été nommé en mars 2020 président du conseil d'administration de Glass for Europe, qui est l'association professionnelle du secteur au niveau européen. Que signifie pour vous cette nomination et quelle est votre feuille de route dans cette fonction?
La date parle pour elle-même. Hein. À l'origine, pourtant, ma mission paraissait très claire comme président de Glass for Europe. La promotion d'une industrie verrière européenne, compétitive, engagée dans la construction d'une Europe climatiquement neutre. Et c'est d'ailleurs la vision que s'est donnée Glass for Europe. Hein, c'est la vision 2050 de Glass for Europe, tout à fait en ligne avec la vision européenne. Ceci dit, la date, mars 2020, qui nous rappelle tous quelque chose, coïncide avec le début de la pandémie en Europe. Et là, le court terme, soudainement, a pris le dessus. Il a fallu se battre pour refaire reconnaître le verre comme une industrie essentielle. Vous vous souvenez sans doute, on parlait de secteur essentiel, non essentiel. Mais il était important pour nous de faire reconnaître le verre comme un secteur essentiel, stratégique au niveau européen. Il a fallu se battre au niveau européen avec les différents pays membres pour s'assurer de ce soutien, pour ne pas arrêter notre secteur. Dans un deuxième temps, nous avons contribué à positionner le verre dans le plan de relance. À travers la promotion de la rénovation et des défis énergétiques, ceci tout à fait en ligne avec notre mission, mais aussi avec le Green Deal, qui une fois de plus, je le souligne, est une véritable opportunité pour nous. 2020, c'est aussi autre chose, c'est l'année du Brexit, l'année de la négociation du Brexit. Et même si les acteurs verriers sont très clairs par rapport à ça, on considère le Royaume-Uni comme faisant partie intégrante des marchés européens, le Brexit génère un certain nombre de changements qu'il faut gérer, que ce soit en termes de standards, normes, règles environnementales, logistiques, et tout ça a défini ou a donné des tâches complémentaires à Glass for Europe. Ceci dit, de manière générale, les priorités de Glass for Europe restent les mêmes. C'est sensibiliser nos leaders européens, les autorités européennes, à l'importance de l'industrie dans l'économie européenne et motiver, promouvoir une industrie verrière, un écosystème responsable face aux enjeux sociétaux que nous vivons aujourd'hui.
Produits ou matériaux avancés, intelligents, connectés, l'Internet des objets, comme on l'appelle, a depuis quelque temps déjà fait son entrée dans l'industrie du verre. Quels sont, dans les grandes lignes, les effets de la transition numérique sur votre secteur?
Alors, sans surprise, la transformation digitale, hein, comme l'expression que nous utilisons, est un des axes stratégiques prioritaires. Dans un premier temps, d'ailleurs, nous avons laissé la place à beaucoup d'initiatives dans l'entreprise. J'aime bien l'expression anglaise « mushrooming », un peu champignonnage de projets, parce qu'on était encore sur nos circuits traditionnels ou classiques, et on a laissé cette initiative se créer dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on rassemble un peu tous ces projets dans une feuille de route autour de trois directions prioritaires. Alors la première, elle est, je pense, un peu évidente, mais c'est l'amélioration de nos process. Hein, c'est augmenter notre efficacité. Et cela concerne toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis le client jusqu'au fournisseur. Moi, j'aime bien partir du client, en fait. Tout part du client, quelque part. Et là-dessus, on peut citer un certain nombre de projets qui sont des projets de prévision commerciale, de planification, d'optimisation industrielle. On est, par exemple, aujourd'hui totalement engagé dans le redesign, la redéfinition de nos sites, depuis la captation de données, le traitement de ces données, le stockage de ces données et les améliorations industrielles qu'on en déduit. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la relation avec le client. Où la digitalisation, en quelque sorte, permet d'apporter, de développer toute une série de nouveaux services qui vont aider le client au jour le jour, que ce soit des services de support technique, commercial, marketing. Ça se fait souvent dans des projets communs qui nous permettent d'accroître le business ensemble, mais dans un esprit win-win. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est la possibilité que nous offrent les nouvelles technologies digitales de développer des nouveaux business. Je crois que le plus simple, c'est de donner quelques exemples, sera sans doute plus parlant. Le premier auquel je pense, c'est on offre aujourd'hui des solutions totalement customisées pour réaliser une façade unique, exclusive, grâce à notre technologie de virtualisation ou de rendu, mais parfaitement réaliste. Et on est les seuls à avoir cette technologie qui permet de rendre vraiment le rendu des matériaux tel qu'il est une fois installé dans la façade. Premier exemple. Deuxième exemple, qui est, je pense, très important, on propose des solutions pour améliorer la connectivité dans les bâtiments. Faut savoir, j'ai parlé, et j'étais très, très fier d'ailleurs de parler au début, de l'amélioration de l'efficacité énergétique, des solutions qu'on apporte à ce point de vue-là dans les bâtiments. Mais en fait, ces solutions ont parfois le désavantage de rendre le bâtiment hermétique aux ondes. Et de plus en plus quand on évolue vers la 5G. Et donc face à ce défi aujourd'hui, eh bien nous développons des solutions, alors que ce soit pour des nouveaux vitrages, mais aussi pour améliorer des vitrages déjà installés, pour améliorer la connectivité dans le bâtiment.
Pour la captation
de... Pour permettre une meilleure connectivité, donc la captation du réseau, pour être simple. Et puis le dernier exemple peut-être que je veux citer, parce qu'on en entend parfois parler, c'est ce qu'on appelle les vitrages intelligents. Ce sont des vitrages à transmission variable, qui s'adaptent automatiquement aux conditions d'ensoleillement, de température ou de lumière. Ce qui est intéressant par rapport à ces projets, ces nouveaux business, c'est que ce sont souvent des startups, résultat d'incubateurs internes ou de partenariats externes, qui amènent des nouvelles opportunités, mais aussi, et j'aime bien le souligner, un changement culturel dans notre entreprise. Ça permet de bousculer, bouger un peu le paquebot un peu lourd que nous sommes.
Vous avez évoqué la digitalisation de la relation client. Est-ce que on peut faire un lien avec un concept qui tend à se développer aujourd'hui, le concept product as a service? Donc on ne vend plus un équipement, un produit, on vend l'utilisation, on vend le service qu'il rend. Donc un groupe comme AGC s'inscrit-il dans cette tendance et si oui, comment?
Tout à fait. Alors j'aime bien rappeler d'abord l'environnement stratégique du verre. J'ai pas peur de dire que le verre est une commodité aussi, il faut le reconnaître. Ou au moins on a une partie importante de notre business qui reste une commodité. Et c'est pas une fatalité d'être une commodité. Je pense qu'on peut très bien réussir, il faut l'accepter, mais on peut très bien réussir dans une commodité, mais il faut être compétitif, il faut avoir une excellence opérationnelle bien en place, et il faut une force d'innovation. De ce point de vue-là, en effet, l'innovation... va chercher à nous rendre moins sensibles, ce qu'une commodité est parfois, en développant des nouvelles spécialités, en faisant la promotion de ces spécialités, en développant des nouveaux services. Et alors, on vient avec des solutions, un ensemble produit plus service, ou des nouveaux business models. Et souvent, d'ailleurs, il faut une nouvelle technologie, un nouveau produit, un nouveau business model, le tout est lié. J'ai déjà donné quelques exemples. J'ai parlé tout à l'heure de la customisation des façades. C'est un peu du mass customization, c'est vrai. J'ai parlé aussi des solutions pour une meilleure connectivité ou des vitrages intelligents. Et dans tous ces cas-là, souvent, on vend autre chose qu'un produit. Et on vient d'ailleurs avec un système de vente qui est différent parce qu'on vend un produit et un service. C'est aussi le cas pour des solutions qu'on appelle BIPV. Alors, c'est quoi le BIPV? C'est le photovoltaïque intégré aux bâtiments, et donc qui deviennent des solutions de façade dans des vitrages où la façade devient productrice d'énergie, productrice d'électricité. Et dans ce cas-là, vous comprenez que le return, il n'est pas le produit. le return, il est la production énergétique. Donc toutes ces approches vont dans un esprit différent où on vend autre chose que du verre, simplement, mais on vend aussi, et on a une approche de vente de services.
Qui dit évolution des technologies liées à un secteur dit aussi évolution des métiers, des profils. Votre message aux candidats à l'emploi dans votre secteur, si d'aventure ceci devait encore associer l'industrie du verre à une industrie plutôt traditionnelle et lourde, vous avez évoqué vous-même l'idée d'un paquebot. Que diriez-vous à ces jeunes?
D'abord, j'espère qu'à travers cette interview, j'espère vous donner une image un petit peu différente de celle simplement d'une industrie lourde. J'espère qu'on a pu percevoir qu'on a une industrie innovante, responsable et vraiment motivée par sa transformation face aux défis sociétaux qui nous occupent. Les jeunes qui nous rejoignent d'ailleurs sont souvent étonnés par notre secteur, sa technologie, son développement. Mais nous avons définitivement besoin de personnes motivées et passionnées qui ont envie de participer à cette transformation dans un monde en transition.
Avec une prédominance de profil IT ou pas nécessairement?
Alors d'abord, je pense que oui, pas exclusivement, mais je pense qu'aujourd'hui, on garde un certain nombre de difficultés pour attirer des profils. Alors, de manière générale, je pense que je peux parler de profils techniques et scientifiques dont on fait défaut aujourd'hui. On a parfois du mal à accélérer certains projets dont j'ai parlé, de ces nouveaux business. On a parfois du mal à accélérer leur développement par manque, par exemple, de compétences techniques pour le secteur Renault Window. Difficile de développer rapidement un réseau d'installateurs, c'est un exemple. Mais aussi, on a du mal parfois, face à la concurrence d'autres secteurs, à attirer des profils data, informatiques vers nous. Ça reste vraiment un challenge très 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 important.
Vous répondez déjà en fait à la prochaine question qui était est-ce que vous éprouvez des difficultés à recruter certains profils?
Ben oui. Ben oui, franchement oui. Moi je voudrais répondre non à cette question. Ça me paraît évident, mais malheureusement je dois dire que oui. Et c'est vraiment ces secteurs-là, je veux dire techniques et scientifiques, qui nous posent le plus de problèmes aujourd'hui.
J'ai encore en mémoire la boutade de Jean-François Héris, ancien CEO d'AGC Glass Europe, à propos des carrières et des formations scientifiques, justement, les fameuses les STEM dont on parle souvent. « On a bien plus besoin d'ingénieurs que de philosophes », disait-il. C'était en 2015. Alors aujourd'hui, 7 ans plus tard, à sa suite, est-ce que vous diriez la même chose?
Alors, moi, je pense que Jean-François, il a trouvé une belle expression pour mettre en évidence ce défi, ce besoin de développer les filières scientifiques et techniques. Je pense pas que ce soit exclusivement réservé aux ingénieurs, mais c'est pas là l'important. Je pense que c'est vraiment la volonté de promouvoir ces filières-là qui offrent aujourd'hui le plus d'opportunités. Et je crois que c'est très clair. Mais mon expérience personnelle m'a enseigné quand même qu'on a besoin d'une bonne dose de philosophie en management aussi. Que ce soit pour s'améliorer chaque jour, pour fonctionner dans un groupe, pour motiver les équipes, pour travailler ensemble ou pour relever les défis de ce monde en transition. Je crois qu'une bonne dose de philosophie est aussi nécessaire.
On ne peut pas ne pas en parler. La crise sanitaire a très certainement modifié l'ordre des priorités pour le futur de votre groupe. Quel est son impact sur l'ensemble de vos activités, d'abord de manière générale et puis plus en particulier sur l'immobilier de bureaux et je pense à ces nombreux mètres carrés de surface vitrée?
Vaste question, je vais essayer d'y répondre en quelques parties. Tout d'abord, personnellement, je ne suis pas 100% convaincu qu'on puisse parler de changement de priorité. Personnellement, je préfère utiliser le terme catalyseur. Je pense que ça convient mieux. Je pense que cette crise a eu un véritable effet de catalyseur en vue d'accélérer un certain nombre de transformations qui étaient nécessaires. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question sur les effets de la crise, on l'a subi de plein fouet. Les secteurs principaux qui sont les nôtres, les secteurs consommateurs de verre, que sont le bâtiment et l'automobile, ont énormément souffert. À titre d'exemple, prenons le cœur de la crise, le deuxième trimestre de l'an dernier, la consommation de verre a chuté de plus de 30% en Europe. 25% pour le bâtiment, mais près de 70% pour l'automobile, qui est un secteur qui s'est retrouvé quasi complètement à l'arrêt. Et tous les pays n'ont pas été égaux face à cet impact économique. Et je parle ici d'un impact économique, je pense qu'on a tous souffert de la crise sanitaire, mais au niveau économique, tous les pays n'ont pas été égaux. Moi, je classe un axe sud, Angleterre, Belgique, France, Espagne, Italie, qui a beaucoup plus souffert que l'axe nord. Hollande, Scandinavie, Allemagne et Europe centrale. Vous savez que notre métier est caractérisé par ce qu'on appelle des fours à coulées continues. Hein. Ce sont des procédés industriels qu'une fois lancés, on n'arrête plus et on produit du verre. C'est un ruban de verre qu'on continue à produire pendant une période de 15 à 20 ans. Donc vous imaginez ces productions de verre qui, du jour au lendemain, font face à un marché sans demande. Et il a fallu gérer cette situation. Et je tiens vraiment à mettre en évidence l'excellent dialogue social. Mais la collaboration forte avec les partenaires sociaux, les autorités, qui nous a permis de faire face vraiment à cette situation inédite. Et ça nous a permis de préserver l'outil de production, ce qui était essentiel pour assurer un futur. Maintenant, on ne peut pas limiter la crise à cette dimension-là. Tout au long de cette crise et encore aujourd'hui, la priorité absolue a été et reste de sécuriser les conditions sanitaires de travail. Alors vous m'avez posé une question aussi sur l'évolution de la demande. Et c'est intéressant parce que je pense effectivement qu'on fait face à un changement qu'on peut qualifier d'un peu structurel dans la demande. Où, d'une part, il y a des incertitudes qui pèsent sur l'évolution du secteur, ce que nous appelons le secteur commercial, c'est-à-dire les immeubles de bureaux hein, principalement, avec les changements des habitudes de travail des gens et qui ont comme conséquence de réduire le besoin de surface de bureau. Ça, c'est une évolution qu'on a d'une part. Mais d'autre part, soyons honnêtes, il y a un gros boost sur la rénovation pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore réorganiser son intérieur pour un nouveau mode de vie. On travaille plus chez soi et pas mal de gens sont venus avec des projets d'adaptation de leur intérieur. Maintenant, par rapport aux surfaces de bureau, je pense plus spécifiquement... Il faudra solidement y penser, voir comment réhabiliter ces surfaces de bureaux vers probablement des quartiers mixtes, dans des villes intelligentes. Mais ça, ce sont des projets très conséquents qui, j'espère, vont voir le jour.
Philippe Bastien, merci pour le temps que vous nous avez consacré.
C'est déjà la fin de ce podcast. Notez dès à présent dans votre agenda les prochains podcasts Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. Rejoignez-nous chaque dernier jeudi du mois et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet feb.be.